Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma. Eh bien le bonjour à tout le monde, merci d'être à l'écoute de 48FM. Ce matin, nous sommes en direct de la Halle Saint-Jean de Mende pour le Salon Aime Lire, dans le cadre de la 12e édition de la semaine littéraire proposée chaque automne par la médiathèque Lamartine de Mende. Cette année, il sera question de littérature et de jeux, thème de cette nouvelle édition. Alors pour nous en parler, et pour parler de ce salon du livre, et de ce Salon Aime Lire, également de toute cette semaine, parce qu'il y a eu plein d'animations, Patricia Parra, la nouvelle directrice de la médiathèque Lamartine de Mende, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous avons également avec nous Serge Buanic, le nouveau président des Amis de la médiathèque Lamartine de Mende. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, plein de nouveaux et un ancien, tiens, Jean-François Berenguel, adjoint à la culture, il ne change pas lui. Salut Jean-François.
Et bonjour à tout le monde.
Alors, merci d'être avec nous. On va démarrer avec vous, Patricia Parrain. Nous sommes sur ce salon. Il vient de clôturer, donc, je l'ai dit, une semaine littéraire. Alors déjà, pour commencer, comment s'est passée cette semaine ?
Écoutez, très bien. Tout le monde a été satisfait. Tout le monde a eu vraiment des échanges très enrichissants lors de toute cette semaine, puisque moi, nouvelle recrue, on va dire, sur la médiathèque. Donc, j'ai pris de nouveaux contacts. Voilà, ça a été très riche aussi au niveau de ces échanges. Et cette semaine donc s'est organisée, on va dire, autour de trois moments forts. Donc du mardi 12 aujourd'hui, donc samedi 16. Donc le premier temps fort, ça a été donc notre partenariat avec le Ciné-Club Mendois pour la projection d'un film sur le thème du jeu, notamment sur le thème du poker avec Maverick, donc le film Maverick de 94 de Richard Donner avec Mel Gibson et Jodie Foster. Donc ça a été ce premier temps fort. Ensuite, nous avons eu un deuxième temps fort, donc qui est bien sûr l'intervention des auteurs, autrices et intervenants extérieurs autour de cette thématique littérature et jeu. Donc découvrir la littérature jeunesse à travers des ateliers dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Donc nous avons eu 8 écoles sur 10 qui ont répondu présentes, donc avec des auteurs, on va dire, lausériens, notamment Valérian Van Houtegem, donc auteur et scénariste de bande dessinée, donc très proche de nous. Ensuite, Julien Assin et ma petite boîte de jeu, donc c'est une personne qui est intervenue autour du jeu dans les écoles. Ensuite, deux auteurs ardéchois, Sébastien Gaillet et Xavier Broncard. Donc là, autour Sébastien Gaillet, c'était plutôt autour de l'écriture, et Xavier Broncard autour de ses techniques en tant qu'illustratrice. Perrine Boyer et Sylvia Figueredo, deux personnes de l'Hérault, donc qui ont travaillé également sur leurs techniques, toutes les techniques d'illustration avec des pochoirs, peinture, collage, etc. Kamishibai, beaucoup d'animation. Et donc ce dispositif permet de découvrir la littérature jeunesse en allant à la rencontre des enfants afin de découvrir tout le travail de ces auteurs. Et pour moi, je trouve important de mettre les enfants dès le plus jeune âge, le livre, on va dire, entre les mains. Et quoi de mieux de voir les auteurs pour de vrai, comme les enfants disent, pour de vrai.
Voilà, ça. Et on va voir les auteurs après, on pourra en discuter avec eux, ils vont arriver. Je vois que Perrine est pas loin là.
Je voulais aussi rajouter qu'on a donc quatre partenaires cet après-midi, notamment pour une animation jeu avec ses chouettes.
Voilà, ça, je comptais revenir plus tard sur le programme de cet après-midi.
Pas de problème.
Voilà, on va garder.
On va laisser la place.
On va laisser la place pour ça. Jean-François Berenguel, les actions de direction des écoles, ça, c'est une politique forte de la ville. C'est vrai pour ce salon Aime Lire, mais c'est vrai en fait tout au long de l'année.
C'est vrai que les écoles ont toujours été, depuis notre premier mandat, la priorité, on va dire, au moins culturelle sur la ville, avec à la fois des propositions en termes de spectacles vivants, des propositions en termes d'ateliers, de rencontres avec les artistes d'une façon générale, avec cette idée effectivement de côtoyer les artistes en vrai, comme disait Patricia, hein, pour de vrai.
Pour de vrai, oui.
Voilà, donc oui, c'est une volonté forte de je ne sais pas si on peut dire éducation à la culture, éducation au spectacle, mais en fait, ça a toujours été une des priorités de notre équipe municipale.
Quand on pense culture, on pense souvent au théâtre, au concert, à la danse. On ne pense pas forcément à la littérature.
Oui, c'est vrai, peut-être.
Non, c'est vrai, c'est un peu le parent pauvre de la culture, finalement, la littérature.
Je ne sais pas si c'est le parent pauvre de la culture.
Au niveau des politiques, je parle.
En même temps, on oublie... Oui, oui. Bon, après, c'est vrai qu'effectivement, la culture, c'est... C'est un grand défi, on va dire, un grand défi de façon générale. Et là, je tiens à remercier quand même pour relever ce défi à la fois la médiathèque de la ville, Patricia. Et je tiens aussi à souhaiter la bienvenue et à féliciter notre nouveau président des amis de la médiathèque pour essayer de relever ce défi. Je pense que c'est quelque chose d'assez colossal, on va dire. Après, je serai plus... Je sais pas. Peut-être je vais dire... Je me souviens d'il y a très longtemps, parce que comme tu l'as dit, je suis un ancien. Je me souviens d'il y a très longtemps, c'était au lycée Pétavin, quand j'exerçais encore. Il y avait une semaine littéraire. Bon. Et nous avions invité... Enfin, à l'époque, Madame Batifol, qui est aux amis de la bibliothèque, qui officie en tant qu'enseignante... Ils avaient invité deux écrivains de polar, il y avait Rénal et Pouy, Jean-Bernard Pouy et Rénal. Et là, lors d'une rencontre avec les jeunes, finalement, il y a une phrase qui m'est restée, c'est qu'en fait, les gens continuent à lire quand même. Les gens lisent et je crois que peut-être... Madame Parra en parlera sur la fréquentation à la bibliothèque.
Mais bien sûr.
Contrairement à ce qu'on croit, les gens lisent. Alors, la littérature a changé, certainement, mais les gens lisent. Lisent les BD, lisent... je crois pas, enfin...
Non, ça continue. Et pour aider à lire, tu en parlais, les amis de la médiathèque qui sont là. Nouveau président, dur de passer après une présidente qui était là depuis énormément d'années et qu'on salue, qui est également au Salon du Livre. Comment vous avez décidé de venir dans cette association et de donner de vous pour faire vivre la littérature ?
En fait, le bénévolat est en chute libre en France, donc il était difficile de trouver un nouveau président. Donc j'ai accepté de façon à éviter la disparition de l'association. Je profite pour rendre hommage à Arlette Séblin qui a porté l'association à bout de bras pendant une vingtaine d'années, enfin sans négliger le soutien de tous les adhérents et du bureau en particulier.
Alors, on est habitué à des conférences mensuelles de lecture. Ça va se poursuivre, ça ?
Oui. Ainsi que les conférences, le débat, une fois par mois aussi, le même rythme. Et donc, j'en profite pour signaler aussi le prochain Trocbus. Troc-livre.
Oui, on peut troquer des bus aussi, c'est possible. Hein, ça dépend de...
Donc,
c'est
plus...
Et en plus... Donc le troc livre pendant le samedi 18 janvier 25.
Ok, le 18 janvier. Allez, c'est noté. Vous allez mettre d'autres choses en place ? Vous allez apporter, vous, votre patte en tant que nouveau président ? Ou on reste dans une continuité qui marche ?
On va rester dans la continuité, dans un premier temps.
D'accord. À part vous, le bureau a changé un peu ? Il y a des nouveaux ?
Non.
Voilà. On peut faire un appel, d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont envie d'être bénévoles et de vous rejoindre.
Très bien. Je vous souhaite bonne chance.
C'est une association et nous aussi on a des problèmes de bénévolat, c'est toujours compliqué.
Après, si tu me permets, quand même, c'est une petite association mais qui fait un gros travail sur la ville parce qu'on l'oublie souvent. Alors, effectivement, le public qui fréquente ces rencontres est un public un peu vieillissant, on va dire, parce que c'est aussi, ça a été une volonté, je crois, au départ. C'est dans l'après-midi, donc il y a beaucoup les gens travaillent normalement à parler retraités. Mais voilà, mais c'est une volonté aussi. Mais c'est un gros boulot depuis des années. Tu disais la 12e édition de M-Lire. Mais avant, il y avait Lire en
fête. Oui, il y avait d'autres parce que. Voilà. Moi, je me rappelle avoir annoncé le 16e Salon du Livre il y a 2 ans. C'est pour ça, quand j'ai retravaillé, j'ai dit peut-être que je me suis trompé. Non, mais c'est la semaine en entière. Avant, il n'y avait pas la semaine entière, je pense, au tout début. Merci, voilà, mais c'était l'occasion de vous présenter, que les gens puissent entendre votre voix. Alors, on ne peut pas mettre un visage, on est en radio, mais au moins on met une voix sur vous. En tout cas, c'est gentil de venir. Il y a Perrine Boyer qui nous a rejoint, qui est une des illustratrices qui justement est allée dans les écoles à la rencontre des élèves. Ça s'est bien passé cette semaine ?
Oui, bonjour à tous. J'ai rencontré les élèves des Soleilloux maternelles et de Gérard Ponce maternelle aussi, hier vendredi. Et donc, une rencontre pour présenter les techniques d'illustration. Moi, je travaille avec des pochoirs et avec en linogravure. Donc, j'ai présenté mes techniques d'illustration et puis on a pu ensemble créer un feuillage. Voilà, de feuilles d'automne autour de mon album Petit Russe qui est publié aux éditions Grandir.
D'accord, donc illustratrice, hein, c'est ça. Vous, vous êtes aussi autrice.
Pour Petit Russe, je suis auteur et illustratrice.
D'accord, vous faites les deux.
Oui.
D'accord, alors vos techniques, vous, que vous utilisez, c'est que pochoir ou il y a d'autres techniques ?
J'aime beaucoup les techniques d'impression en général et du coup ça tourne soit autour du pochoir, donc c'est un trou qui a une forme, soit autour de la gravure, et là c'est l'inverse, c'est une matière qui a une forme et qu'on imprime, qu'on tamponne.
D'accord, mais c'est, oui, c'est quelque chose que les enfants et les tout-petits d'ailleurs aiment bien.
Voilà, c'est ça, moi j'utilise des matériaux que je coupe au cutter et puis des encres qu'on ne peut pas utiliser avec les enfants. Et avec les enfants, ben, on peut fabriquer des pochoirs dans des matières cartonnées. J'aime beaucoup leur parler de récupération. À la fin de l'atelier, je les incite à demander à leurs parents d'aller voir dans le bac à recyclage. On peut créer des pochoirs vraiment avec pas grand-chose, avec un paquet de céréales et des ciseaux. Et c'est vrai que c'est très intéressant à faire avec les enfants.
Du coup, vos livres, ils sont à destination du très jeune public ou pas forcément ?
Oui, j'ai donc Petit Bourgeon et deux qui sont publiés chez Lirabelle, qui sont vraiment pour les tout-petits. Et Petit Russe, je dirais que c'est de 3 à 99 ans, c'est un conte populaire qui raconte l'origine d'un petit oiseau bien connu. Et ensuite, j'ai Le Singe et le Crocodile qui est publié aux éditions Accès, qui lui est un conte africain. Et voilà, c'est peut-être entre 5 et 10 ans. Voilà.
D'accord. Vous y étiez hier, Madame Parra, au Soleilloux ?
Alors oui.
Je ne sais pas si c'était Perrine qui intervenait hier.
Alors mais... c'est Perrine qui intervenait hier matin au Soleilloux, avec deux. Tu avais deux ateliers, il me semble. Voilà. Oui. Donc la matinée, ensuite l'après-midi, donc sur Gérard Ponce. Voilà. Donc moi, je les ai laissés s'installer. J'ai pas assisté à l'atelier, mais j'ai donc voilà, je l'ai donc accompagné parce que moi, ben, également, je ne connais pas encore tous les enseignants ni directeurs directrices d'école. Donc ça a été aussi l'occasion de faire un peu ce lien entre ben, la manifestation, la médiathèque, moi en tant que nouvelle arrivante. Voilà. Donc ça a été des échanges et même au niveau de nos rencontres, au niveau de ces auteurs et intervenants. Voilà, ça a été aussi des moments d'échange et de rencontres très intéressantes. Et voilà, c'est aussi une joie pour nous, parce que non seulement c'est bon, gratifiant pour les enfants, pour tout, quand on reçoit en fait, et ensuite, parce que nos échanges ont été beaucoup de mails, quelques coups de téléphone, mais beaucoup de mails. Et là, on est quand même dans le, on n'est plus dans le virtuel, là, on est vraiment dans l'humain. Et c'est toujours très riche. Moi, j'ai connu aussi sur d'autres médiathèques sur lesquelles je travaillais, ça toujours, pas forcément dans le cadre comme ça d'une semaine entière, mais des interventions avec des auteurs. Et je trouve ça vraiment, ce lien est vraiment très fort et très enrichissant professionnellement. Et voilà, et on se dit, l'an prochain, est-ce que tu veux bien revenir éventuellement ?
C'est quelque chose que vous faites souvent, ces interventions en école, ou ça la marge ?
J'en fais dans le cadre de festivals. Voilà, moi j'habite dans l'Hérault, près de Clermont-l'Hérault, et donc je travaille pas mal sur Montpellier, sur Béziers, autour de festivals. Je vais travailler au Printemps des Petits, qui a lieu autour du bassin de Thau, là, au printemps. Donc dans le cadre de festivals, j'interviens dans les écoles, oui.
Et comment ça se passe avec les petits ? Ils sont étonnants, ces petits, quand vous leur proposez des ateliers comme ça ? Ils vous étonnent ?
Oui, ils ont toujours des mots très mignons. Oui, oui, ils sont... Hier, il y a une petite fille qui, en fait, elle faisait une peinture avec du houx. Donc, elle a fait les boules du houx. Et ensuite, il fallait placer les oiseaux. Et donc, d'habitude, on met les oiseaux dans les feuilles. Et elle, elle a mis une boule rouge du houx dans le bec. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très joli et que ça faisait vraiment écho au livre. Et ça veut dire que voilà, elle a vraiment été attentive dans les lectures du livre. Elle a vu que le petit oiseau mangeait les baies du houx. Et elle l'a reproduit dans son travail alors que ce n'était pas du tout demandé. Et oui, ça m'a étonnée. Ouais. Mmh. Ouais. Et puis des fois, ils reprennent les mots du livre aussi. Mmh. Ils aiment bien les enfants qu'on leur lise plusieurs fois la même histoire sur tous les contes. Et on voit que quand ils les ont entendus plusieurs fois, c'est toujours ouais, étonnant pour moi d'arriver à un endroit où je ne connais personne et les gens connaissent bien l'histoire. Ouais.
C'est ça, un salon, ça sert aussi à ça aussi, c'est d'avoir un retour sur vous, vos productions. Et en plus, vous pouvez l'avoir avec les enfants qui, lors des ateliers.
Oui.
En plus, c'est bien, c'est naïf. Ça...
C'est direct. Là. C'est direct. C'est direct.
Oui, oui.
Super. Mais merci beaucoup, Perrine. Merci. Alors, on rappelle, on est en direct, donc vous êtes là toute la journée pour dédicacer vos ouvrages. Donc, il ne faut pas hésiter à venir vous voir. Et donc, on va vous laisser retourner à votre stand parce que...
Voilà, merci beaucoup. Et venez nombreux, voilà, on vous dédicacera des livres pleins de couleurs.
Oui, c'est ça.
Au revoir.
Merci, au revoir. Alors, on attendait d'autres auteurs qui ont participé aussi. Ils ne devraient pas tarder à arriver. Je pense qu'il y a certaines personnes de la médiathèque Lamartine qui ont oublié d'aller les chercher et de faire le changement. Mais ce n'est pas grave, ils vont arriver, on va continuer avec nous. Sur la médiathèque, c'est quel public qui vient à la médiathèque Lamartine de Mende ?
Alors, on a divers publics, on va dire du bébé lecteur jusqu'à l'âge adulte, on va dire 100 ans et plus, pourquoi pas, hein, parce que on a quand même aujourd'hui des personnes très âgées. Alors, quelquefois, c'est la difficulté de se déplacer. C'est vrai que c'est aussi toujours un souci. Donc là, on va essayer de travailler un petit peu sur comment aller vers les publics qui se disent empêchés de lire, enfin empêchés de venir dans nos médiathèques, et travailler avec des associations qui font de l'aide à domicile, et par ce biais peut-être voir si on peut un peu cerner les besoins de personnes qui voudraient avoir un portage à domicile, peut-être par l'intermédiaire de ces personnes qui sont vraiment en contact au quotidien avec ces personnes-là, et voir éventuellement si on ne peut pas apporter le livre sur des publics un peu empêchés ou temporairement ou moins temporairement d'ailleurs. Voilà, on va essayer d'un petit peu d'aller vers les gens.
Super. Xavier Broncard vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour.
Qui est également intervenu et qui, je tiens à le dire, depuis ce matin, j'ai un fils qui regarde des vidéos de linogravure et qui veut faire de la linogravure. Alors, je vous remercie. Ça m'a permis de pouvoir préparer l'émission pendant qu'il faisait autre chose parce que ça l'a extrêmement bien intéressé. Merci beaucoup aux amis de la médiathèque. La linogravure, je suppose que vous ne faites pas que ça, mais c'est un des formats sur lesquels vous travaillez.
Voilà, je ne fais pas que ça, mais en effet, c'est un format... j'ai fait deux livres en linogravure. Et c'est quelque chose que j'aime bien présenter aux enfants parce qu'il y a un côté magique quand on découvre ce qu'on vient d'imprimer. À chaque fois, ça fait son petit effet et ils adorent.
Est-ce qu'on peut expliquer pour nos auditeurs auditrices qui ne sauraient pas forcément ce qu'est la linogravure, ce que c'est ?
C'est de la gravure sur du lino. Donc le lino, c'est ce qu'on a au sol dans les chambres souvent. Là, c'est du lino qui n'a pas de décor, qui est marron, tout simple. On va dessiner dessus et on va le graver avec des gouges. Et ensuite, on l'encre et on imprime couleur par couleur.
C'est un genre de tampon où on peut...
Voilà, on fabrique ces tampons et on vient les imprimer les uns sur les autres selon le nombre de couleurs qu'on a.
D'accord. Les autres types de techniques, c'est quoi pour
Alors,
vous ?
Alors, moi, je dessine aussi en numérique, c'est-à-dire sur une tablette graphique sur mon ordinateur. J'aime beaucoup ça aussi. Ça ressemble à du feutre, finalement, sauf qu'on dessine avec un stylet. Et puis, l'avantage de cette technique, c'est que ça permet d'être beaucoup plus souple au niveau de la composition, des couleurs. On peut facilement changer ce qu'on fait. Et sinon, aussi, je dessine aussi avec des papiers découpés. Voilà. Des papiers peints, en fait.
Alors, vous venez présenter quel livre aujourd'hui, ici ?
Là, je suis sur le stand de la librairie Le Rouge et le Noir. Et j'ai la peinture du chiqui, J'ai l'arbre de nuit, les petits pas perdus et papa pingouin.
Alors, jeune public.
Voilà.
Je dirais en entendant les titres.
Je dessine que pour les enfants, en fait.
D'accord. Vous êtes aussi autrice ou pas du tout ?
Pas du tout.
D'accord. Vous travaillez avec qui ? Autant citer les...
J'ai beaucoup travaillé avec une auteure qui s'appelle Isabelle Vlodarzik.
D'accord. Ok. Mais nous, on a un auteur qui est à côté, qui vient nous rejoindre, qui a aussi participé à ces semaines-là. C'est Sébastien Gaillet, c'est ça ?
Oui, bonjour.
Voilà, et qui, lui, travaille avec des illustrateurs, illustratrices.
Oui, en fait, c'est la maison d'édition qui, une fois qu'elle a validé mon texte, en fait, a des contacts avec des illustrateurs avec qui les maisons d'édition collaborent un peu régulièrement et donc me proposent, en fait... tel illustrateur ou tel illustrateur. Donc c'est assez rigolo parce que même il y en a certains. J'ai fait deux livres par exemple avec Thomas Bass, qui est un illustrateur alsacien, et on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés, et on a deux livres ensemble.
D'accord.
Après, on peut se rencontrer sur des salons, il y en a certains que j'ai rencontrés après.
C'est,
tout ça, mais...
c'est intéressant ça. Vous rencontrez, vous les auteurs, quand même, ou pas?
Alors,
forcément.
Non, il y a des auteurs qu'on ne connaît pas.
Ah ben c'est intéressant, ça. Vous, c'est pareil, on vous propose des textes et ça vous intéresse, hop, on va dessiner dessus. Comment ça se passe, le lien, la création au tout départ d'un livre?
Voilà, et ben, y a deux façons de travailler. Il y a soit on monte un projet avec un auteur qu'on connaît, qui nous a proposé un texte, qui nous plaît, et on prépare un projet qu'on va présenter aux éditeurs. Soit c'est un éditeur qui nous envoie un texte à illustrer et le texte nous parle ou pas.
Vous, il y a des histoires qui vous touchent plus que d'autres ou pas forcément?
Oui, moi j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la nature, les animaux, la poésie, l'amour. Je suis très cuicui les petits oiseaux. Moi,
vous
voilà.
Êtes fleur, mais c'est très bien. Hein, parce que justement, je parlais en amont de cette émission avec Sébastien. Sébastien, c'est des thèmes assez forts, vous, que vous développez dans vos livres.
Oui, ben, j'essaye de faire passer quelques messages. Voilà, moi, j'ai travaillé 10 ans dans les écoles, dans une autre vie. J'étais moniteur de sport. Donc l'univers des enfants, c'est un univers qui me plaît. Et voilà, donc... J'aime bien l'idée de travailler sur des premiers romans. Donc moi, je suis plus sur le secteur, enfin le créneau 7-12 ans. Et j'aime bien l'idée d'aller planter des petites graines dans l'esprit des enfants qui... les écrans sont... J'invente rien, sont omniprésents. Et donc si on peut... par moment sur des ouvrages qui abordent le thème de la protection des animaux, de l'environnement, enfin de l'injustice, la place des femmes, c'est toujours ça de toujours ça de pris. Et puis j'essaye d'écrire des histoires que j'aurais aimé lire quand moi j'avais 7-8 ans. Donc voilà.
Vous êtes d'Ardèche, vous êtes tous les deux d'Ardèche?
Oui,
c'est ça. Et voilà, en plus, coïncidence, illustratrice, auteur, vous pourrez peut-être travailler à l'avenir ensemble aussi, sait.
Grâce à Emily Armand, on s'est rencontrés.
On habite
à 25 km, mais on ne s'était jamais rencontrés.
D'accord. Comment ça s'est passé dans les écoles, justement, là, les ateliers que vous avez proposés avec les enfants, Xavier?
Ah, moi, c'était super. C'est toujours très riche pour moi, pour eux, je pense, aussi, pour les enseignantes. J'essaye de construire des ateliers qui leur apprennent des techniques qu'elles peuvent réutiliser. Je dis « elles » parce que souvent, ce sont des femmes. Qu'elles peuvent remettre en pratique derrière. Je fais des choses très simples techniquement. Et... en fait, j'attache pas tellement d'importance au rendu final. Pour moi, c'est vraiment la rencontre qui est importante, l'échange qu'on a avec les enfants, les voir investis dans l'activité. Pour moi, ça, c'est le principal.
Oui, ben moi, pareil, je suis intervenu dans 4 écoles autour d'un de mes romans qui s'appelle Mamie Fatou, la catcheuse de Kinshasa. Et en fait, j'ai proposé, comme c'était sur la thématique du jeu, une course d'orientation créative. Donc, dans un premier temps, les enfants étaient amenés à aller chercher des phrases, des balises phrases issus de mon roman, donc dans la cour, dans l'environnement de l'école. Et une fois qu'ils avaient récupéré les 6 phrases qui étaient numérotées, ils devaient écrire un récit en intégrant les phrases dans leur histoire. Donc il y a
D'accord.
eu autant d'équipes que de nouvelles histoires, nouvelles versions de Mami Fatou, la catcheuse de Kinshasa. Donc c'était une très chouette, des très chouettes rencontres avec des enfants, et je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir, et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'ils se rendent compte que écrire des histoires, ça, c'est des moments très chouettes et ludiques.
Bien sûr. Vous avez aussi une maison d'édition aussi, particularité chez vous.
Oui, en fait, moi j'ai un peu un parcours à rebond, j'ai changé plusieurs fois de métier. J'ai des petites antennes en fait, et quand je commence à m'ennuyer dans un travail, je me dis bon Sébastien, qu'est-ce que tu sais faire et comment tu peux rebondir. Et donc j'ai eu l'opportunité avec mon épouse il y a 3 ans de reprendre une maison d'édition ardéchoise qui s'appelle 7 éditions et qui fait des livres sur l'Ardèche, un petit peu sur le Gard et la Drôme et le Jura. On est un éditeur lent, on fait 2-3 livres par an, on prend le temps de faire les choses.
C'est pas la quantité qui compte.
Voilà, tout à fait. Ah. Donc là, on a fait, cette année, on a fait 2 livres, on a fait un livre sur les arbres remarquables d'Ardèche, où on met toujours de l'humain au milieu, donc il y a la présentation des essences remarquables d'Ardèche, mais il y a également des rencontres, entretiens d'Ardéchois et d'Ardéchoises qui, dans leur activité de loisirs ou professionnels, entretiennent une relation privilégiée avec les arbres. Donc voilà, c'est vraiment chaque fois des coups de cœur, des aventures éditoriales avec des auteurs, des photographes. On travaille beaucoup avec...
Et qu'on peut retrouver ici.
Voilà, je suis venu avec mes livres sur le stand, à la fois mes livres jeunesse et les livres de cette édition.
Paul, il nous a rejoint. Paul, il a participé à l'atelier de linogravure. Viens, approche du micro. Viens nous en dire 2 mots. Explique-nous qu'est-ce que vous avez fait en classe au groupe scolaire Jean Bonijol avec Xavier qui est juste à côté. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a fait faire, Xavier? Explique-nous.
On nous a fait faire... On a fait découvrir des animaux avec une seule phrase.
Oui.
Après, on a fait un domino géant.
D'accord.
Qu'est-ce que tu avais comme animal, toi, Paul?
Moi, j'avais le rhinocéros.
Et ta phrase, c'était quoi?
C'était « Je pèse 1 tonne et j'ai 2 cornes ».
D'accord. Ah bah oui, c'est le rhinocéros. Je réfléchissais. Ça aurait pu être autre chose. Ça aurait pu être un bison, par exemple.
Ouais, mais il n'y avait pas de bison. Mais donc, on ne pouvait que trouver le rhinocéros. Bon. Ça marchait.
Et qu'est-ce que tu penses de la linogravure?
Je trouve que c'était bien.
Ouais. T'aimerais en refaire?
Ouais.
Ouais. Ça y est, t'es lancé dessus? Voilà. C'est ça, ça que ça sert aussi, vos interventions, en plus de faire un premier lien avec le monde littéraire, le monde des illustrateurs, illustratrices, et de faire connaître aussi des techniques. Mais c'est un peu difficile quand on est un enfant et qu'on veut se lancer dans la linogravure, j'imagine.
Oui, après, on n'a pas fait vraiment de la linogravure. On a fait autre chose, mais qui est un peu sur le même rendu. C'est-à-dire, on imprime, on a un résultat qu'on découvre d'un coup et c'est magique. Voilà, c'est ça le principe de ce qu'on a fait.
Super. Ça va refaire ou pas? Ces animations en classe?
Ouais.
Allez, ben c'est super. Merci, Paul. Je peux te laisser aller chercher des livres et aller voir les livres de Xavier aussi. Xavier, je vais vous laisser tranquille parce qu'il y a du monde qui vient à vos stands.
Merci.
Pareil pour Sébastien. Ouais, merci beaucoup.
Merci à vous.
Allez, avant de faire la pause musicale, on va finir avec Madame Parra. Et après, on passera avec les libraires présents au salon et les auteurs, autrices qui y sont. Donc, on parlait cet après-midi. Il y a des animations. On retrouvera quoi?
Alors oui, à partir de 14h, nous aurons donc des jeux géants sur l'estrade, donc à partir de 14h à 17h, avec C'est chouette, donc des jeux tout publics, pour les tout petits comme pour les plus grands, des jeux un petit peu originaux, des jeux géants, des jeux en bois. Ensuite, nous avons ce matin un atelier, alors peut-être qu'ils seront quand même encore présents, mais là il y avait des animations avec le Centre de ressources illettrisme 48, le CRIA, avec Marie Hague et donc Dominique Jeux, qui proposaient sur inscription des jeux autour de la langue française et l'apprentissage notamment, pour les publics en situation soit d'illettrisme ou des personnes allophones. Voilà, donc le CRIA est dans nos locaux depuis quelques mois, je pense qu'un petit peu plus d'un an maintenant. Et donc nous allons conjointement travailler ensemble sur le thème de l'illettrisme, voilà, notamment. Ensuite, nous avons Caribou de Bois avec Karine, qui donc, est tourneuse sur bois, donc du jeu fait main, on va dire, du jeu artisanal, fabrication artisanale, avec des plateaux sur le thème de la Lozère, des jeux lozériens. Donc il y a à la fois la vente et à la fois du jeu sur place, et elle est tout prêt pour pouvoir justement intervenir s'il y a des questions. Mais ce sont des jeux qu'on peut vraiment voilà, assez faciles, avec des explications simples pour toute la famille. Et notamment, enfin, et entre autres, enfin, on aura également Julia Hassan avec Ma Petite Boîte de Jeux, qui est donc a fait des interventions dans les écoles, et qui donc a un stand de jeux où elle fait de la vente. Voilà. Et on avait donc là un petit peu aussi un autre partenaire aussi qu'on a eu, enfin qu'on a dans le cadre d'une exposition, l'exposition manga 3-2-1 Go, Mystérieuse Disparition dans les Causses et Cévennes. Donc cette exposition, elle est aujourd'hui présente au salon, et vous pourrez, elle sera également visible tout le mois de décembre à la médiathèque. Et c'est donc un partenariat avec l'entente interdépartementale des Causses et des Cévennes et les éditions Belle Balade. Voilà, donc un manga, on va dire, sur le manga lozérien, si on peut dire, parce qu'il ne sera pas que lozérien, puisque les deux auteurs vont pouvoir continuer une série de mangas en fonction des commandes et des départements pour travailler un petit peu sur cette... voilà, faire découvrir, en fait, un petit peu... la culture, les coutumes, partir d'une région, etc.
D'accord, voilà. Donc ça, c'est les animations en plus, hein, on pourrait dire, parce que bien sûr, il y a ce salon. Combien d'exposants à peu près on retrouve ?
Une soixantaine aujourd'hui, avec voilà, et tous nos partenaires aussi, les auteurs invités dans les écoles, voilà, donc ça fait... voilà.
Ben c'est très bien. Et jusqu'à quelle heure on peut venir ici ?
Alors jusqu'à 17h30, et on a également aussi des tirages de tombola. On aura trois moments dans la journée avec des tombola par rapport avec les tirages au sort, avec les tickets d'entrée, donc entrée gratuite bien sûr, un tirage au sort avec des livres offerts par les librairies. Et les amis de la médiathèque également, qui participent à cette tombola.
Eh bien, c'est super. Merci beaucoup, Madame Parra. On va faire une première pause musicale et on va aller inviter la librairie et les auteurs présents sur son stand à venir. Et après, on passera avec les petits papiers également les auteurs qui sont là. Merci beaucoup.
Merci bien. We'll be right back.
Allez, ça y est, on est de retour avec les petits papiers de la librairie, les petits papiers qui est ici présente. Sarah Lavabre, salut.
Salut.
Ça va bien ?
Ça va très bien, et toi ?
C'est super, ça va super. Tu es venue avec des auteurs, autrices présentes sur ton stand, et qui étaient peut-être d'ailleurs cette semaine à la librairie.
Et non, pas cette semaine à la librairie, mais j'ai eu l'immense honneur d'avoir Mister B et Monsieur K régulièrement depuis que j'ai ouvert. Et donc c'est à nouveau qu'ils sont venus cette année présenter leur deuxième tome des chroniques anachroniques qui s'appelle Jérusalem.
D'accord.
Ils étaient venus pour Gévaudan.
Ok.
Et j'ai aussi cette année une nouveauté pour moi, Florence Medge, que je ne connaissais pas en direct, je connaissais juste ses livres, qui écrit du coup beaucoup sur le territoire de la Lozère et des histoires de meurtres.
Ah, des polars.
Des polars, des thrillers.
Des thrillers.
Et des romans historiques aussi.
Bonjour Florence et bonjour à vous de nous rejoindre.
Bonjour.
D'accord, mais Florence, on va vous laisser la parole alors, hein, vu que vous l'avez prise.
Oui.
On vous la laisse. Donc, tu disais, Sarah, qui se situe en Lozère ?
Oui, mais sur 6 romans, il y en a 5 qui se passent en Lozère. Alors, plutôt sur la Margerie des Laubrac.
D'accord.
Dont ma famille est originaire. Voilà, ah. Donc,
Je vais vous dire parce que c'est une terre de crime. Non, c'est juste par rapport à votre famille.
Non, c'est inspirant, en fait. Il y a pas mal de mystères. Bon, je me suis beaucoup servi de la bête du Gévaudan au départ. Hein. Donc, il y a ce côté mystérieux. Il y a l'ambiance aussi de certains lieux d'Aubrac et de Margeride qui se prêtent bien au thriller.
D'accord.
Voilà. Côté inspiration. J'essaye de rechercher des lieux un peu particuliers où il y a une ambiance, une atmosphère.
Ça marche toujours, Sarah, les thrillers, les romans policiers dans une librairie ?
Ah oui, ça marche bien. Même sur des gens qui ne sont pas trop lecteurs, ils vont quand même aussi aller vers ce type de livre-là, puisqu'en fait, c'est un moyen de partir dans complètement autre chose, finalement, que le quotidien.
Oui, oui, c'est une porte d'entrée, c'est sûr. Qu'est-ce qui marche comme style littéraire un peu en ce moment dans les librairies ?
En ce moment, dans les librairies, j'aurais pas tendance à dire qu'il y a un style littéraire en particulier. Il y a évidemment sur le début de l'automne tout ce qui est lié au prix, mais du coup, ça c'est lié un peu à la médiatisation et à l'actualité. Mais de style en particulier, je crois pas. En plus, moi, c'est ce que j'aime, c'est rencontrer des gens qui disent plein de choses différentes et du coup. La librairie généraliste, moi je suis vraiment pas du tout attachée à un genre en particulier.
Un genre particulier, c'est tout type de public qui pousse les portes d'une librairie ou ça reste quand même encore assez âgé ?
Non, pas assez âgé, mais je dirais plutôt féminin quand même.
Plutôt féminin, ouais. D'accord. C'est ce qu'on retrouve dans les salons, Florence et également
Alors oui, enfin dans les séances de dédicaces, il y a peut-être une légère majorité de femmes. En tout cas dans les échanges que j'ai aussi par internet sur les réseaux sociaux, il y a les femmes sont peut-être un peu plus représentées que les hommes. Mais après ça dépend du style.
Nous c'est de la bande dessinée, donc du coup alors,
c'est feignasse de mec, il regarde des bandes dessinées, ouais.
Ça s'est ouvert heureusement aux autrices et aux lectrices. Mais c'est vrai qu'il reste encore un peu ça. Donc je pense que nous, c'est équilibré, quoi, du coup. Mais on a encore beaucoup de mecs qui viennent nous voir.
Et, oui.
Et en BD, il y a peut-être plus d'auteurs que d'autrices ?
Plus ça va, plus il y a beaucoup d'autrices. Mais c'est vrai que... Et pas tellement représenté sur les salons, il reste quand même une majorité d'auteurs, alors que dans les faits, il y a vraiment de plus en plus d'autrices et d'éditrices aussi, enfin, c'est de l'ensemble. Donc ça, il y a une belle évolution. Mais c'est vrai que malgré tout, sur les salons, il y a encore une disparité, c'est vrai. Mais bon, ça, quand même ça passe de aucune, enfin une, Bretéchée, à quand même 25%, je pense, maintenant. Comme ça.
C'est à l'image de la société. Ça évolue, mais à son rythme, un peu trop lentement. Alors, parlez-nous un peu de ce que vous venez présenter aujourd'hui ici.
On est là essentiellement avec les éditions de Tapage. Donc on a commencé par de la BD et puis là on a sorti plusieurs romans depuis un an à peu près. Tiens, c'est ça. Il y en a, là, ne serait-ce que sur les derniers mois, je crois qu'il y en a 3 qui sont sortis. Donc, c'est des... C'est, voilà, on, bon, comme c'était parti plus sur de la BD, on s'est dit au bout d'un moment, ben, pourquoi pas prendre des romans, carrément, on va tenter le coup. Et puis, c'est vrai que nous, notre manière de fonctionner, c'est plus... Il y a souvent des gens qui sont là juste pour voir leur livre vivre, en fait, leur livre être créé. S'ils ne sont pas après des milliers et des cents, ils s'imaginent bien qu'ils ne vont pas faire une fortune avec six ans, mais juste le désir de voir leur livre devenir réalité. Et ça, je crois que c'est pareil pour tous les auteurs qu'on est dans le... chez Tapage, c'est ça l'essentiel.
D'accord, mais j'ai vu qu'après Covid, il y avait eu beaucoup de gens qui s'étaient dit bah, « Tiens, je vais devenir écrivain ». Il y avait eu pléthore de manuscrits qui est arrivé dans toutes les maisons d'édition. Pauvres maisons d'édition qui ont dû se taper des romans un peu dégueulasses. Mais...
Gallimard avait même écrit « Lisez plus et écrivez moins ».
Oui, mais voilà. C'est quoi comme type de roman que vous allez éditer ?
C'est surtout pas mal science-fiction. En BD, au début, chez Tapage, c'était pas mal humour. Donc il en reste un peu. Mais les romans, c'est assez science-fiction. Il y en a un notamment que moi j'ai coécrit avec Rodolphe Guérard, qui est c'est la guerre entre les hommes et les femmes, qui est arrivé à un paroxysme où les femmes ont fini par gagner, mais par la guerre.
Oui. Et ça, c'est qu'il y a trop de destinatrices maintenant, c'est vengé.
C'est ça, on en prend le contraire. et donc voilà, donc c'est une histoire évidemment avec une histoire d'amour au milieu, mais entre on a poussé l'idée qu'il pourrait y avoir un affrontement entre les hommes et les femmes à son paroxysme en fait. Et puis ça se passe au Caire sous un soleil écrasant, dans un futur qui pourrait bien être le nôtre par contre, plus que je crois moins en la guerre entre les hommes et les femmes réelle. Que par contre le soleil écrasant,
eh ben oui,
de l'avoir.
Bien sûr. Donc c'est des gens qui vous envoient des manuscrits, on ne connaît pas forcément. Bon, là, celui-ci, vous l'avez coécrit, donc voilà.
Oui, c'est beaucoup de rencontres. Là, on commence à recevoir de plus en plus de propositions. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose chez Tapage, c'est vrai que c'est l'idée, c'est un petit peu... Donc il y a ce côté de... C'est une alternative à l'auto-édition, parce que du coup, c'est une vraie maison d'édition avec contrat d'éditeur. Mais donc on récupère des projets qui n'ont pas trouvé d'éditeur en fait, et que nous on trouve intéressant, et l'idée c'est que les auteurs portent, alors du coup il y a une espèce de synergie, c'est-à-dire que les auteurs s'entraident entre eux, mais les auteurs portent vraiment leur livre, participent à la mise en page du livre, enfin font une partie éditeur finalement.
D'accord, super.
Donc ça c'est vraiment l'idée, et puis d'avoir quelque chose sur le long cours, c'est-à-dire il n'y a pas de... c'est pas pendant un an on va défendre un livre et puis il va disparaître. En fait, les livres restent d'année en année et on continue à les défendre. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir des livres qu'on va vraiment faire vivre et pas, pas passer des tas de livres comme ça.
Oui, ça reste à un niveau humain.
Voilà, et puis ça permet, on a par exemple nos BD là, qu'on fait avec Mister B, la chronique anachronique, vendent beaucoup. Hein. Par rapport aux autres titres, mais du coup ça nous permet comme ça d'être un petit peu comme le cinéma en France, c'est-à-dire ceux qui vendent bien permettent de publier des livres qui vendent moins, et tant pis s'ils sont un peu à perte, mais du coup ils existent grâce aux autres moteurs, donc on essaie de trouver un équilibre comme ça.
Super intéressant. Vous êtes où ? Vous êtes situé où ?
Alors le siège c'est à Narbonne pour l'édition Tapage. Nous, d'accord, on est à Béziers.
Okay. T'as du tapage un peu à la librairie ?
Bah forcément j'ai du tapage à la librairie.
Bah non, j'en ai pas. C'était une question piège, ça. Mais tu t'en sors toujours bien.
Bah ouais.
Ouais. Comment t'as connu toi ?
J'ai connu comment ? Bah, je crois que c'est Jean-Charles qui a pris contact avec moi sur la BD Gévaudan. Ils avaient aussi une expo que j'ai accueillie au magasin. Et du coup, voilà, je leur ai proposé effectivement de venir. Et comme ils sont, en plus d'être talentueux, bien sympathiques, on est resté en lien.
Ouais, c'est toujours un plus. Florence, c'est de l'auto-édition ou c'est une maison d'édition, vous ?
Alors moi, j'ai écrit 6 romans. Les 3 premiers, je les ai auto-édités. Puis j'ai trouvé une maison d'édition. Et les 3 derniers, ce sont les Presses littéraires, qui est une maison d'édition située en Occitanie, près de Perpignan.
D'accord.
Et qui a un catalogue assez généraliste, mais qui publie pas mal de polars. Et moi, comme je suis plutôt sur le thriller, le polar, mais avec un côté historique, ça correspondait à... à leur demande.
Alors, c'est des thrillers polars, c'est en Lozère, comment on arrive à se repenser, à se renouveler en restant sur le même style, sur le même territoire et sur les mêmes crimes?
Alors, c'est pas tout à fait le même territoire à chaque fois. J'essaye de varier entre Aubrac, Margeride, Terre de Peyre. Le dernier, il se passe du côté de Versailles, donc, mais avec un lien, un clin d'œil au Gévaudan. En fait, disons, jusqu'à présent, à l'exception d'un livre qui est La Vallée de l'Enfer, le fil conducteur, c'est un peu la bête du Gévaudan, même si tous mes livres ne sont pas essentiellement sur la bête du Gévaudan. Mais bon, j'en ai deux qui revisitent l'histoire de la bête du Gévaudan de nos jours, sont des polars contemporains du style Meurtre A, la collection de France Télévisions. Donc l'intrigue policière permet de découvrir la région et l'histoire de la bête du Gévaudan. Donc, j'en ai deux, Meurtre en Gévaudan et Meurtre en Aubrac, qui revisitent l'histoire de la bête. J'en ai un autre qui est historique du Gévaudan à Versailles, qui lui, vraiment, c'est l'histoire de la bête du Gévaudan. Je me suis plongé dans les archives, et voilà. Mais toujours sous forme romancée.
On change de personnage ou vous avez des personnages récurrents qui reviennent
Alors, en général, c'est une histoire différente à chaque fois, avec des personnages différents, mais dans les polars, il y a la même enquêtrice, même
voilà,
si elle
est... Voilà, c'est là où je veux en venir.
Voilà, c'est pas forcément le personnage principal. Et elle sera davantage mise en avant dans le roman que je suis en train d'écrire.
D'accord.
Mais c'est souvent des personnages et des lieux un peu différents à chaque fois.
Et une enquêtrice.
Une enquêtrice, oui.
C'est bien ça. Eh bien, merci beaucoup à vous cinq d'être venus. On y est toute la journée, là, jusqu'à 5h30, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Et on peut venir se faire dédicacer un livre chez Tapage.
Il ne faut pas hésiter, surtout, à venir se faire dédicacer.
Exactement. On vous attend nombreux. Merci beaucoup. Allez,
merci,
on va faire
merci.
Une pause musicale et on va faire un nouveau changement de plateau. C'est parti.
Like your stepping stone. You keep using me like
Allez, on est parti, on va appuyer sur pause pour la musique. Sophie Lévesque qui est avec nous actuellement. Merci beaucoup Sophie de participer à cette émission, à ce salon M-Lire également. Dites-moi alors, qu'est-ce que vous venez présenter aujourd'hui à ce salon du livre ?
Alors, je viens présenter mon premier roman qui est édité aux éditions Nombre 7 à Nîmes et qui s'intitule « Les boîtes rouges ».
D'accord. Les boîtes rouges, c'est l'histoire de quoi ?
Alors, les boîtes rouges, c'est issu de la correspondance de mes parents quand ils étaient jeunes amants. Et donc, ils ont été séparés pendant 3 ans. Ils se sont écrits quotidiennement. Donc, le roman, en fait, est fait de 3 parties. Une première partie où j'explique, en fait, ma difficulté à entrer dans ces boîtes parce que je mets au-dessus de tout le respect de la vie privée. Donc, j'avais certainement pas envie d'aller trahir ou d'aller m'immiscer dans une... Oui, dans une histoire qui ne me regardait pas. Et en fait, quand j'ai commencé la lecture, je me suis rendu compte, au contraire, que c'était très universel et que ça décrivait une époque, surtout une époque qui semble vraiment bien loin, alors que maman est encore en vie. C'est une ode à la lenteur.
Ok.
Le temps retrouvé.
Et oui, c'est assez particulier de raconter un peu son histoire, c'est très personnel.
Oui, mais...
Et comme vous dites, ça ne l'est pas
forcément. Ça ne l'est pas tant que ça, et du coup c'est très personnel effectivement, mais surtout très universel. Et donc ça retraduit un temps qui a vraiment beaucoup changé. Et aujourd'hui, avec ces réseaux sociaux, et on voit comment les gens communiquaient à cette époque. Et ça permet de reprendre un petit peu le temps lent. Et je trouvais que c'était parfaitement nécessaire, en tout cas pour moi, de le faire à ce moment-là. Et puis il y a une dernière partie. Que je ne vais pas divulgâcher mon roman, donc la dernière partie je la laisse à mes lecteurs, mais en tout cas les premiers retours que j'ai de mes lecteurs me fait plaisir, et effectivement être à ce salon, c'est pouvoir être à la rencontre des lecteurs.
Bien sûr, c'est un premier roman ?
Oui.
Ah, donc c'est tout frais là, ce oui. premier roman.
Oui, tout frais.
D'accord. Comment on se dit, je vais écrire un roman ? C'était par rapport à cette histoire qui vous touchait, que vous aviez envie de mettre en lumière, ou c'est...
Ça va paraître très convenu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, je ne vais pas être très originale, mais j'ai toujours eu envie d'écrire des petites choses dans des coins, et puis ce que j'explique dans la première partie, effectivement, c'tout à coup, ça a été un petit peu le déclencheur, ces boîtes. Et puis une période de ma vie qui a fait que, oui, effectivement, je me suis lancée dedans. Et en tout cas, ça m'a donné un grand goût pour l'écriture. Et est-ce que le deuxième verra le jour ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a permis de me lancer dans un deuxième complètement différent cette fois.
D'accord. C'est édité comment ? Chez qui ?
Les éditions Nombre 7 à Nîmes.
Nombre 7 à Nîmes, d'accord. Oui. Et vous êtes gardoise, hein, c'est ça hein ?
Alors, d'adoption.
D'adoption.
Mais c'est vrai que j'y ai vécu jeune, j'en suis partie, je suis revenue. Et je dis que Nîmes est ma ville, en fait, de cœur. Mais je suis normande de naissance.
D'accord. On pense déjà, donc vous avez parlé, hein, on va voir si ça se poursuit, mais on pense déjà quand même un peu dans le coin de sa tête à l'ouvrage suivant ou...
Oui, oui.
On a envie de poursuivre ce style-là, dans ces histoires-là, ou on a envie de...
Ce sera forcément radicalement différent, parce que ce ne sera pas sur la base des courriers. Là, quand je dis que c'est la base des courriers, c'est que c'est un peu comme si j'avais mis toute la matière, peut-être une terre glaise, et que j'aurais sculpté ensuite. Donc vraiment, tous les courriers, je les ai réécrits. Ce qui m'a profondément amusée et plus, c'est que je suis le fruit de ces 2 jeunes amants, donc j'ai parlé tantôt la langue de ma mère, tantôt la langue de mon père, et ça m'a beaucoup amusée, mais je les ai effectivement tous réécrits. Donc là, le deuxième, où j'ai une 50aine de pages commencées, c'est radicalement différent. Est-ce que j'aurai le temps, parce que c'est ça qui me manque aujourd'hui, le talent d'aller au bout de cette histoire que j'ai dans ma tête, mais qui n'est pas encore toute complètement couchée sur le papier. J'espère en tout cas y arriver.
J'en doute pas. Merci beaucoup. Donc, on peut vous retrouver au Salon du Livre ici à M-Lire. Hein, vous y êtes jusqu'à quelle heure ? 17h, 17h30
oui.
Voilà, donc voilà. On peut venir prendre un livre et en plus le faire dédicacer.
Exactement.
C'est quand même pas mal ça.
Voilà. Oui, oui, parce que c'est vrai que c'est une vraie chance pour les auteurs que de rencontrer les lecteurs.
Bien sûr. Donc,
merci pour l'organisation.
Mais de rien. Enfin, moi, je ne vais pas organiser grand-chose, je le prends pour moi. Merci. Mais merci. Je vous laisse y aller. Allez, on va terminer cette émission avec Laurent Célie qui est là. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Un des locales de l'étape. Hein, tu es un local là. Tu es l'Auxerrien,
ben
Auvergnat,
enfin, oh, j'habite sur côté. Près de Saint-Flour. Oui,
oh, Saint-Flour, c'est l'Auxerrien. Bientôt, ça le sera. Laurent Célie, tu es sur le stand du Rouge et le Noir.
Tout à fait, oui.
Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu viens proposer aujourd'hui ici?
Eh bien, je viens proposer mes deux livres de recettes à base de plantes sauvages. Donc, le premier qui est sorti en 2022, Plantes sauvages comestibles. Et le deuxième, Le Régal des quatre saisons, qui est sorti cette année au mois d'avril.
D'accord. Des recettes sur quel type de plat
Alors, des recettes à base d'orties, de pissenlits, d'asperges sauvages, de violettes, de pâquerettes, etc. Donc, le premier, ce sont vraiment des plantes européennes. Dans le deuxième livre, j'ai mis un petit peu plus de dessert parce qu'on m'avait reproché que dans le premier, il n'y en avait pas assez.
Ah, et gourmand, ça.
Voilà. J'ai mis quelques fleurs et j'ai mis quelques espèces méditerranéennes. Donc, ce sont des recettes classiques, des recettes que j'ai créées, avec bien sûr des influences italiennes, puisque je suis d'origine italienne, des influences méditerranéennes et asiatiques, puisque j'ai vécu 3 ans et demi en Chine.
Et c'est intéressant parce que en plus, ça doit beaucoup plaire. On a vu un retour un peu à la terre, on pourrait dire, post-Covid, de gens qui avaient, après Covid, de gens qui avaient envie un peu de retrouver des choses naturelles. Ça, tu le retrouves chez des gens qui viennent te voir ici, par exemple, comme dans les salons, qui te disent « Ah, mais c'est super parce qu'on a envie de faire de la nourriture saine, pure, de ce qu'on trouve dans la nature, surtout chez nous, où il y a beaucoup de plantes. »
Oui, c'est vrai. Bah, chez nous, c'est très facile d'aller dans la nature et de ramasser des orties. Voilà, c'est la plante majeure et la plante qui est connue par tous. Après, moi, ce sont des livres de recettes. Ce ne sont pas des livres d'identification. Mais dans chaque livre, voilà, il y a des plantes que tout le monde connaît. C'est vrai que pissenlit, pâquerette, violette, sureau, reine des prés, ce sont des plantes quand même faciles à reconnaître. Et je donne des pistes, en fait, parce que c'est vrai que la plupart des livres sur ce sujet, ce sont des livres, alors surtout de botanique, il y a vraiment la description de la plante, l'écologie, etc. Et mon éditeur a voulu le contraire, en fait, a voulu donc une description vraiment sommaire de la plante, mais par contre, plusieurs recettes. C'est-à-dire que quand on récolte, eh bien, on a quand même des pistes pour les cuisiner. Et c'est vrai que ça a eu du succès puisque le premier, au bout d'un an et demi, a été épuisé. Il a fallu le réimprimer.
C'est la maison d'édition, c'est qui ?
C'est De Boré.
C'est chez De Boré. On parle souvent des légumes de saison. Tiens, on va parler des plantes de saison. Allez, une recette là. Qu'est-ce que tu pourrais nous proposer comme recette ?
Eh bien, à base d'ortie, puisque l'ortie, elle pousse pratiquement toute l'année. On a eu un automne pluvieux et ensoleillé, donc elle a vraiment, c'est presque un deuxième printemps. Et comme il commence à faire froid, eh bien, on peut faire une petite soupe d'ortie. Alors, contrairement aux recettes classiques, moi, l'ortie, je la mets au dernier moment. Donc, vous la lavez, donc mettez des gants si vous la craignez. Vous la hachez grossièrement. Vous la mettez au dernier moment lorsque les autres légumes, oignons, poireaux, pommes de terre, sont cuits. Et avec le bouillon, elle va se ratatiner. Vous mixez et vous servez sur le champ. Comme ça, vous avez vraiment le bon goût frais de l'ortie et vous préservez au maximum ses vertus.
Ah ben, ça donne envie. Tu sais quoi ? Tu devrais en faire des émissions radio.
Ah bon ?
Voilà, Laurent, qui est chez nos amis de Radio Marjorie, qu'on salue. Allez, on peut venir te voir et comme ça on aura tous ces livres de bonnes recettes. En plus, tu pourras discuter avec les gens pour proposer aussi autre chose. C'est ça, les salons du livre.
D'avoir, tout à fait, d'avoir c'est un échange.
Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Je te laisse retourner à ton stand. Merci aux auditeurs, auditrices qui sont restés avec nous. On vous rappelle le salon Aime Lire, c'est toute la journée. Il y a des animations cet après-midi également pour les enfants. Il y a plein de choses à faire et il y a surtout des auteurs à rencontrer pour venir acheter des livres et se faire des dédicaces. Allez, je vous laisse tout de suite avec la suite du programme. Ciao, ciao.